accent d'Europe, Léa-Lisa Westerhoff.
Pray for repentance, but the gods barely listen. Still, they gave a little wisdom to rebel. You need hope. They say it doesn't rain in Cali no more.
Bonjour. Face à l'inaction climatique des États, faut-il désobéir? La dernière conférence sur le climat, la COP27, qui n'a pas réussi à proposer de nouveaux engagements pour faire baisser les gaz à effet de serre, n'est que l'un des exemples de l'échec des pays européens à enrayer le réchauffement climatique. De plus en plus, les défenseurs de l'environnement changent donc de mode de contestation, blocage du trafic en se collant au macadam, jet de ketchup sur des tableaux dans les musées. En Allemagne, depuis quelques semaines, plusieurs groupes de défense de la planète multiplient les actions spectaculaires pour alerter sur l'urgence climatique. Parmi eux, Jörg Alt, un activiste hors du commun puisqu'il est jésuite, mais lui non plus ne voit plus d'autre option à part celle de la désobéissance civile. Son portrait signé Delphine Narbollier.
Nous vous prions de nous excuser pour ce blocage de route.
Nous sommes le 28 octobre à Munich, en Bavière. Ce jour-là, Jörg Alt et plusieurs autres membres du groupe scientifique en rébellion bloquent la route devant le ministère régional de la Justice. Mégaphone en main, ce jésuite de 61 ans alerte les passants sur les conséquences de la crise climatique avant de se coller la main au macadam. L'action a eu lieu il y a un mois déjà, mais il en garde encore les traces physiques.
J'ai encore des cloques sur les mains.
Ce genre d'action coup de poing se multiplie en Allemagne et dans de nombreux autres pays européens. Pour Jörg Alt, la radicalité des mouvements comme « Scientifiques en rébellion » ou « Dernière rénovation » Letzte Generation en allemand, est la conséquence de l'inaction des politiques. Lui-même travaille depuis 35 ans sur les questions de migration et de climat.
Cela fait évidemment réfléchir quand le Conseil mondial pour le climat dit qu'il ne nous reste que 3 ans avant que les émissions de CO2 ne commencent définitivement à baisser, car sinon on n'arrivera pas à limiter le réchauffement à 1,5 degré. Cela me fait réfléchir aussi. Qu'ai-je fait depuis 35 ans? J'ai fait des discours, j'ai écrit des livres, débattu, participé à des campagnes, j'ai signé des pétitions. Cela n'a aidé en rien. Que peut-on faire maintenant pour utiliser ces 3 petites années au mieux? On en arrive au point où on se dit, nous devons nous mettre en travers de la route de manière incontournable et dire, on ne peut pas continuer comme ça. Et au final, qui enfreint les lois? Ce sont les États qui n'appliquent pas l'accord de Paris. Donc oui, qui enfreint les lois?
Ce jésuite, basé à Nuremberg, en Bavière, défend donc ses actions de désobéissance civile face à l'urgence climatique et il appelle les chrétiens à réagir.
On a une petite idée de ce qui va arriver. En Allemagne, 200 personnes sont mortes à cause d'inondations. En Inde, des milliers de personnes sont mortes car les températures ont dépassé les 50 degrés. Au Pakistan, 30 millions de personnes ont perdu leur maison à cause d'inondations. Ce n'est qu'un avant-goût de ce qui va arriver. Il faut en parler. Et cela ne peut pas nous être égal à nous, chrétiens, car au final, c'est bien le Nord qui a engendré ce problème. Nous avons utilisé les énergies fossiles pour assurer notre bien-être, pour assurer notre économie. Nous avons donc la putain de responsabilité et le devoir de résoudre ce problème.
Jet de ketchup sur des tableaux, blocage de route, les actions coup de poing des militants comme Jörg Alt créent une très vive polémique en Allemagne. Surtout depuis qu'une cycliste a succombé à ses blessures après un accident sur une route bloquée par des activistes à Berlin. À cause des embouteillages, l'ambulance n'a pas pu arriver à temps. Depuis, les militants climatiques sont accusés de tous les mots par certains responsables politiques de droite et par les médias du groupe de presse Springer. C'est le cas de la chaîne de télévision Bild.
Bienvenue sur Bild. Qui veut protester doit faire parler de lui, doit parler fort, faire du tapage et être arrogant. Mais se coller aux routes depuis des semaines, bloquer la circulation pendant des heures, saboter, risquer des vies humaines, est-ce du militantisme ou du terrorisme? Qu'est-il permis de faire pour protester? J'en parle avec nos invités.
Face au déchaînement des passions, Thomas Haldenwang en personne a calmé le jeu. Lors d'un débat organisé par une chaîne de télévision régionale, le chef des services de renseignement intérieur estime que ces actions n'ont rien à voir avec du terrorisme.
De mon point de vue, c'est absurde. Bien sûr, Letzte Generation est, oui, un groupe particulier qui veut attirer l'attention avec des actions spectaculaires. Et ce qu'ils font sont en effet des délits. Mais commettre des délits, cela ne fait pas d'eux un groupe extrémiste. Je ne considère pas ce groupe comme un danger pour l'ordre libre et démocratique. Il n'est donc pas un cas observé de la part de nos services.
En attendant, les militants qui jettent de la purée sur des tableaux ou bloquent des routes peuvent encourir des amendes. En Bavière, une dizaine d'entre eux ont même été placés en détention préventive. Ce n'est pas le cas de Jörg Alt. Ce fervent catholique est toutefois poursuivi dans 4 affaires de ce genre. Nobody's sleeping well and I can feel the tension grow in LA with rolling brownouts, rolling papers and rolling 60s. Heat exhaustion, increasing caution across the city. Some people hit the mall, they're trying to stay cool. Et en Espagne, cette demande de la jeunesse que la protection de la planète soit un sujet central atteint même les universités. À Barcelone, début novembre, un groupe de jeunes activistes pour le climat a ainsi littéralement monté un campement nuit et jour dans le patio de l'Université de Barcelone. L'objectif, obtenir des engagements concrets de la part du rectorat. Retour sur ce bras de fer avec notre correspondante Élise Gazangel.
Entre deux tentes, les étudiants de l'association Haine Fossile avaient accroché des affiches pour défendre la planète contre les énergies fossiles. Et pendant une semaine, ils ont organisé des débats avec les étudiants et les professeurs. Leur revendication, d'une part, que l'université cesse les collaborations pour certains masters avec des entreprises et des banques qui financent les énergies fossiles. Et de l'autre, que soit intégré dans tous les cursus une matière obligatoire sur le climat. Au bout d'une semaine de négociations, le rectorat a fini par accepter que dès la rentrée 2024, tous les étudiants de licence de la UB, environ 14 000 jeunes, devront suivre la matière obligatoire sur le climat. Concrètement, cette matière transversale s'adaptera aux différents cursus et évoquera par exemple le traitement de l'éco-anxiété en psychologie, le manque de ressources en économie ou encore le design plus écologique en architecture. Et même s'ils n'ont pas obtenu gain de cause sur la totalité de leurs demandes, les écologistes considèrent cet engagement comme une victoire. Leur action a même été soutenue ouvertement par plus de 200 professeurs et chercheurs d'université. Et depuis, l'association continue à faire le tour des autres facultés de Barcelone pour préparer les nouvelles générations à un futur transformé par la crise écologique. Got to do something about the climate change, my gosh. You know, feel how we hot, 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 hot. Tell me what we do about the climate change. Got to do something about the climate change, my gosh. Burning hot. S'ils partagent la même inquiétude, jusqu'ici les scientifiques spécialistes du climat et les défenseurs de l'environnement ne se croisaient pas beaucoup. Aux uns, l'analyse froide de l'ampleur de la crise climatique, aux autres, la mobilisation de la société civile. Mais là aussi, lenteur et inaction des États font bouger les lignes et la répartition des rôles commence à changer. Julia Steinberger est chercheuse à l'Université de Lausanne. Elle est également l'une des auteurs du dernier rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. En octobre, elle a été embarquée par la police après avoir bloqué une route avec d'autres militants près de Berne. Quand la science bat le pavé, Jérémy Lanche a rencontré la jeune chercheuse.
Parfaitement à l'heure, bravo la Suisse.
Bonjour.
Bonjour.
Trouver le bureau d'un chercheur dans une grande université est toujours une gageure, mais pas celui de Julia Steinberger. Sa porte est en effet couverte d'autocollants et de posters des groupes Extinction Rébellion et Renovate Switzerland. C'est avec ce dernier groupe de militants que la scientifique est allée bloquer la circulation pour demander aux autorités suisses d'accélérer la rénovation thermique des bâtiments. Elle s'est même coller la main à la chaussée, un mode d'action complémentaire et presque nécessaire, dit la chercheuse, à son travail académique.
Je pense que le travail de recherche n'empêche ou ne soustrait pas à l'obligation d'agir en tant que citoyen ou en tant que citoyenne. Je ne me suis jamais vraiment posé la question si je ne devais ou je ne pouvais faire que l'un ou que l'autre. Je sais que ça dérange certains, Mais je pense que c'est une question aussi de cohérence et d'intégrité, et je ne suis pas la seule dans mon cas de figure.
L'Université de Lausanne est de ce point de vue un cas d'école. Dans ses rangs, on compte ou on comptait, notamment Dominique Bourg, candidat écologiste aux européennes et ardent défenseur des mouvements comme Extinction Rébellion. Il y a aussi le prix Nobel de chimie, Jacques Dubochet. Lui n'est pas un spécialiste du climat, mais il participe à quasiment toutes les grandes manifestations ces dernières années en Suisse, n'hésitant pas à apporter son soutien aux activistes quand il se retrouve devant la justice. Ce mode d'expression des chercheurs est relativement nouveau, mais encore une fois, il est devenu indispensable, estime Julia Steinberger.
Je pense que chez les collègues dans la recherche du climat, que c'est quelque chose de plus nouveau. Je pense que dans d'autres domaines, c'était déjà le cas auparavant, qu'il y avait justement cette responsabilité de communication publique. Par exemple, on peut penser au domaine de la santé, le problème du tabagisme. Je pense que nous faisons face à un échec, en fait, de la façon de faire précédente. C'est-à-dire que la stratégie précédente, c'était une stratégie de technocratie où les chercheurs se limitent à conseiller les politiques, c'est-à-dire où nous écrivons des rapports qui sont ensuite destinés à conseiller, à orienter les politiques. Et on se rend compte que ce n'est pas du tout suffisant et qu'il faut faire autrement.
Du côté des étudiants et même de la communauté scientifique, l'engagement de Julia Steinberger ne semble pas poser de problème. Au contraire, même, l'Université de Lausanne soutient très officiellement ses chercheurs qui stimulent, dit-elle, le débat sur les enjeux de société. Les seules réactions vraiment négatives viennent plutôt de la sphère politique et de la droite, conservatrice et nationaliste. Pas de quoi remettre en question le combat de la scientifique.
Je m'attendais à ce qu'il y ait un spectre de réactions, c'est-à-dire certaines personnes qui approuvent, certaines personnes qui trouvent ça amusant ou insolite, certaines personnes qui désapprouvent. Par contre, la quantité d'intérêt que ça a suscité m'a complètement dépassée. Et je dois avouer que ça m'a grandement dérangée cette semaine-là. J'avais d'autres choses à faire et j'ai dû un petit peu chambouler mon agenda. Parce que c'est vrai que quand les personnes ont des questions, je pense qu'on se doit, en tant que scientifique, d'y répondre aussi honnêtement et de façon aussi transparente que possible.
Julia Steinberger n'en est pas à sa première manifestation, ni à sa dernière d'ailleurs. Le seul véritable problème pour elle, c'est plutôt d'arriver à jongler entre la recherche fondamentale et les sollicitations médiatiques, très nombreuses depuis son interpellation par la police suisse.
En Norvège, la saison de ski vient de s'ouvrir avec de la neige artificielle et le coup de gueule du champion de ski de fond suédois, Emil Johansson Kringstad. Véritable pavé jeté dans la mare, le champion a profité d'une compétition dans la station de ski de Beitostølen pour accuser l'entreprise pétrolière norvégienne Equinor d'être l'un des principaux responsables du réchauffement climatique et donc du manque de neige qui affecte les sports d'hiver. L'athlète a brisé un véritable tabou et s'est vu sanctionné car Equinor est l'un des principaux sponsors norvégiens. La correspondance régionale de Carlota Morteo.
Sur la ligne d'arrivée, il a brandi une pancarte. Morgendagen smelter, demain est en train de fondre. C'est le slogan d'une campagne lancée par Greenpeace en Norvège pour dénoncer le sport washing, une stratégie utilisée par les industries fossiles pour verdir leur image en sponsorisant des événements sportifs de plein air. Ici, les compétitions de ski, très populaires, alors même que leur avenir est menacé par le changement climatique. Une absurdité et une hypocrisie dénoncées, c'est inédit, par un skieur, Emil Johansson Skrinsdal.
Ça a plus de poids quand ce ne sont pas seulement les militants écologistes qui le disent, a-t-il déclaré, rappelant que l'entreprise pétrolière norvégienne, dont le logo est partout sur les pistes, les maillots ou les publicités à la télé, émet 5 fois plus de carbone par ses activités dans le monde que toute la Norvège.
Si on perdait ce sponsor, on aurait moins d'argent pour les événements sportifs, je le comprends. Mais peut-être qu'on attirerait d'autres entreprises plus vertueuses qui ne veulent pas être associées à Equinor, justement. Pour avoir exprimé un point de vue politique, le champion de ski de fond va devoir payer une amende, l'équivalent de 1000 euros. Une trop petite somme pour qu'il puisse la contester, c'est ce que dit le règlement de la course, mais juste assez pour décourager d'autres athlètes qui souhaiteraient s'exprimer.
Nous sommes le 1er décembre et qui dit mois de Noël dit aussi calendrier de l'Avent pour certains. Mais c'est d'un tout autre calendrier dont vous nous parlez, Clémence Pénard. Bonjour.
Bonjour Léa-Lisa.
Votre robe lunette aujourd'hui est consacrée à un calendrier écologique, là encore, et ça se passe sur le réseau social LinkedIn.
Oui, alors on est d'accord Léa-Lisa, en principe on connaît tous sa date de naissance, pour ma part 1996. Mais est-ce que vous connaissez le taux de concentration de dioxyde de carbone l'année de votre naissance, c'est-à-dire l'un des principaux indicateurs de la pollution de l'air? J'imagine que non. Mais grâce au projet de Marilou Maurizio, vous allez peut-être l'apprendre aujourd'hui. Marilou Maurizio, c'est une photographe française qui, pendant toute la durée de la COP27, ce mois-ci, a partagé sur son compte professionnel LinkedIn, donc une série de photos, pas comme les autres. Elle a fait le portrait de gens comme vous et moi, des portraits en noir et blanc, avec inscrit sur leur peau, au maquillage, le nombre, lors de leur année de naissance, de PPM. Les explications de Marilou Maurizio.
Les PPM, qu'est-ce que c'est? C'est la concentration en CO2, c'est-à-dire que les hommes, depuis 1850, depuis la révolution industrielle, chaque année émettent de plus en plus de CO2 parce que chaque année, on brûle de plus en plus d'énergie fossile et beaucoup plus que ce que la nature est capable d'absorber. Et cette mesure, donc, c'est partie par million, ça veut dire le nombre de molécules de CO2 dans un million de particules d'air.
Ainsi, au cours du siècle dernier, on est passé de 310 à 418 particules de CO2 sur un million de particules d'air. Or, une concentration de CO2 idéale doit rester en dessous de 350 ppm.
Mais alors, quel est le problème que ça pose, Clémence?
Ce qui pose problème, c'est que cette accumulation de CO2 dans notre atmosphère, ça accentue l'effet de serre, ça veut dire que ça augmente la chaleur sur notre planète. Votre PPM, lors de votre année de naissance, vous pouvez le retrouver sur le site The Nature Conservancy, une organisation américaine de protection de l'environnement. C'est finalement un marqueur tangible dans notre relation au changement climatique. Et justement, lors de ces séances photos, Marilou questionne le participant sur ses sentiments face au dérèglement climatique. Ça donne Giovanni, par exemple, d'origine italienne. Il est né en France en 1959, soit en 316 ppm, et il témoigne dans sa famille, dans la montagne en Italie, éboulements, fonte des glaces sont une réalité qui fait peur. La photographe elle-même est touchée personnellement. Elle raconte l'histoire derrière la photo de son père.
Ils ont travaillé dur en France, ils étaient immigrés, et puis ils ont construit une maison dans le sud du Portugal, et là, mon père, il fait de l'agriculture pour son plaisir. Et il vit clairement le dérèglement climatique, puisque chaque année, il pleut de moins en moins. Ça me touche énormément parce que je me dis, quand on connaît les projections du GIEC, quand on voit ce qui se passe, la tendance qu'on est en train de prendre, je ne suis pas sûre que l'endroit que mes parents ont choisi, où ils ont construit leur maison, etc., ce soit un endroit vivable d'ici 30 ans. Donc c'est quelque chose qui est quand même très dur.
Sa série photo touche et fait réagir sur LinkedIn, une série que Marilou, également animatrice de la fresque du climat, un atelier qui permet de comprendre le changement climatique, a réalisé, vous l'aurez compris, dans un but de sensibilisation. Et ça marche aujourd'hui, beaucoup d'internautes affichent leur prise de conscience sur le sujet. C'est presque une nouvelle tendance qui émerge sur les bios d'internautes, sur LinkedIn ou encore sur Twitter.
Il y a de plus en plus de personnes, dont Greta Thunberg d'ailleurs, qui signent en disant « moi je suis née à tant de ppm ». Alors juste pour le clin d'œil, moi j'ai décidé de me le faire tatouer, vraiment en vrai. Donc moi je suis née en 1980 à 340 ppm et maintenant c'est inscrit sur mon bras, voilà.
Et elle n'est pas la seule à avoir préféré l'encre indélébile au simple maquillage, finalement comme une véritable marque de naissance pour toujours dans la peau.
Cette tendance, elle a commencé il y a quelques années déjà.
En 2015 déjà, lors d'une performance, des militants s'étaient mutuellement tatoués leur ppm de naissance en plein musée, celui du Tate Britain à Londres. Des tatouages pour protester contre le sponsoring du centre culturel par la compagnie pétrolière British Petroleum. Mais réponse du musée, le Tate gardera BP comme mécène, leur soutien financier étant bien trop important. Ainsi, ce nouveau calendrier écologique a bel et bien une portée artistique, mais pour l'heure, le mouvement est encore loin de réussir à changer toutes les mentalités.
Merci Clémence Pénard, on vous retrouve jeudi prochain pour un regard sur ce qui fait bouger la toile européenne.
À bientôt.
Accent d'Europe, Françoise Grelot à la réalisation. Retrouvez-nous sur Internet, les réseaux sociaux ou en podcast sur votre plateforme d'écoute. À demain.